Dimanche dernier, nous sommes entrés dans un cycle de méditation sur le thème de l'Église, tel que le livre des Actes nous en parle. On a médité, on a commencé par ce récit assez effrayant, hein, de Ananias et Saphira, et nous avons un peu compris, je l'espère en tout cas, comment Luc percevait ce nouveau phénomène qu'est l'Église. Et que elle n'était pas aussi idéale qu'il n'y paraissait au premier coup d'œil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé suite à cette sombre affaire d'Ananias et Saphira? Eh bien, une vague de persécution s'est abattue sur l'église de Jérusalem. Les apôtres vont être arrêtés, battus, emprisonnés. Ça, c'est normal, hein, ça arrive à chaque fois qu'on se fait attraper à cette époque-là. On ne sait pas pourquoi, mais on vous met des coups de bâton. Et puis, relâchés. Et nous arrivons au chapitre 6, dont je vous invite à lire le début, tout de suite. Comme je n'ai pas de train à prendre aujourd'hui après la prédication, on va prendre notre temps avec la parole, si vous le voulez bien. On va respirer avec elle et je vais vous proposer une lecture un peu déroulante ce matin. En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi nous, frères, cet homme de bonne réputation, rempli d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service de la parole. Cette proposition fut agréée par toute l'assemblée. On choisit Étienne, un homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. On les présenta aux apôtres, on pria et on leur imposa les mains. » Le passage qu'on vient de lire, même s'il semble au premier coup d'œil faire un peu la réclame de l'Église idéale, bien organisée, capable de surmonter les problèmes quand ils se présentent, me fait l'effet, un peu comme dimanche dernier, d'un poil à gratter. Quelque chose ne va pas dans cette église idéale. Alors d'abord, premièrement, c'est explicite. Un conflit vient de se révéler au sein de la super belle, parfaite, idéale communauté de Jérusalem. Elle éclate entre les hellénistes et les hébreux. Peut-être un mot d'explication, on est au tout début de l'histoire de l'Église. Il n'y a pas encore eu de mission. On est à Jérusalem, pas encore de païens convertis à l'Évangile. Toute la communauté est juive. Depuis le jour de la Pentecôte, elle rassemble exclusivement des juifs, mais un peu de deux catégories, des juifs de langue grecque, de langue et de culture grecque, qui sont venus à Jérusalem de la diaspora, c'est-à-dire de toutes ces communautés qui sont disséminées sur le pourtour du bassin méditerranéen. Et il y avait aussi, bien sûr, les natifs, les judéens, des chrétiens convertis, eux aussi, mais de langue araméenne. Des juifs, d'ailleurs plutôt des juives, en l'occurrence ici, puisqu'il est question du sort réservé aux veuves de l'Église. Dans l'Antiquité et dans l'Ancien Testament, on le voit souvent, hein, devenir veuve, c'était vraiment la pire galère qui pouvait vous arriver quand vous êtes une femme. vous tombez tout en bas de l'échelle sociale, vous dépendez de l'aumône. Et il apparaît ici que la jeune Église a mis en place aussitôt un service social au profit de ces femmes. C'est super. Mais il y a du ressentiment. Les veuves d'origine étrangère ressentent une différence de traitement, une inégalité dans la répartition de l'aide. Les veuves judéennes semblent en avoir un peu plus. Alors, dans cette logique imparable du « un problème, une solution », les apôtres, un peu débordés par la croissance rapide de l'Église, mettent en place un nouveau service. Ils créent, pour cela, une fonction nouvelle dans l'Église. La nouvelle mesure est applaudie, agréée par toute l'Assemblée, et fait à nouveau ressurgir cet idéal d'unanimité que nous avons examiné dimanche dernier, et qui n'était que de façade. Les apôtres vont pouvoir ainsi se consacrer aux études bibliques, à la prédication, aux réunions de prière. Et on choisit 7 nouveaux fonctionnaires de l'Église pour s'occuper des tables ou des paniers solidaires, on dirait aujourd'hui. Et ainsi, tout ira pour le mieux dans la meilleure des églises qui soit. Un besoin, une réponse au besoin, un problème, une solution. 7 hommes, triés sur le volet, sages, spirituels et irréprochables. Pas facile à trouver quand même. Les apôtres ont pensé à tout. Ils ont soigné vraiment l'appel d'offres. Même le nom des 7 sont à consonance grecque. Étienne, Philippe, Procor, Nicanor. Donc ils parlent le grec et ils peuvent ainsi développer un service bien adapté au problème. Ils seront parfaits auprès des veuves de langue grecque. Et aux apôtres, le service exclusif de la parole. Aux 7, le service des tables. Chacun à sa place et les fidèles seront bien gardés. Ça, c'est la vision DRH de l'Église. Direction des ressources humaines, vous aviez compris. Celle que l'on trouve dans les entreprises, dans la société, dans le monde de la politique. On pense stratégie d'entreprise. Sans ça, on ne fait que des bêtises. Eh bien, la parole, elle, n'a que faire de ses bonnes idées, de ses critères d'efficacité, de ses programmes et de ses organigrammes, et encore moins de l'unanimité de l'Église. Elle s'en fiche, la parole. C'est ce que va nous faire comprendre la suite. On peut lire la suite ? La parole de Dieu croissait et le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Une multitude de prêtres obéissait à la foi, plein de grâce et de puissance. Étienne opérait des prodiges et des signes remarquables parmi le peuple. Mais sur ces entrefaites, des gens de la synagogue dite des affranchis, avec des Cyrénéens et des Alexandrins, des gens de Cilicie et d'Asie, entrèrent en discussion avec Étienne et, comme ils étaient incapables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit qui marquaient ses paroles, ils subordonnèrent des gens pour... voilà, on va dire la suite après. Dans un instant, mais à ce stade du récit, je voudrais attirer votre attention sur 2 points. Le premier, sur les mots du début qui sont assez étonnants. La parole de Dieu croissait. Je comprends quand on me dit que la communauté croissait, que la foi croît, que la communauté s'agrandit. Je comprends. Mais que la parole croisse, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut vouloir dire que la parole de Dieu est comme une plante qui détient en elle-même le pouvoir de sa propre croissance, le pouvoir de la croissance. La plante n'est tributaire de rien ni de personne. Elle pousse, qu'on s'en occupe ou qu'on ne s'en occupe pas. Bon, ça vous rappelle peut-être certaines choses de l'enseignement, certaines images du royaume de Dieu, chères à l'enseignement de Jésus dans les évangiles. La croissance, voilà, la parole qui croît, qui grandit toute seule. Le second point d'étonnement concerne la personne d'Étienne. Il fait partie des sept désignés pour le service des tables. Et Luc nous l'avait décrit comme, à côté des autres, un homme plein de sagesse et d'Esprit Saint. Mais s'ajoute, pour Étienne, deux autres plénitudes, la grâce et la puissance. Et ce qui fait la renommée d'Étienne, ce n'est pas tellement la qualité de son service des tables ou son accueil des veuves de langue grecque, dont les apôtres l'ont chargé. Ce qui fait sa renommée, c'est qu'il accomplit des prodiges et des signes, mais encore plus, ce qui fascine les gens de la synagogue, c'est la puissance spirituelle de sa parole. Vous voyez, celui que les apôtres ont institué comme chargé de service, d'étable, se révèle être ailleurs, au service de la parole. Comme si toute la belle organisation, comme si le poids institutionnel était court-circuité par une autre puissance qui n'en fait qu'à sa tête, celle de la parole. Elle seule, est clairement aux commandes de la destinée de l'Église. Continuons la lecture. Ils subornèrent des gens pour dire, à propos d'Étienne, nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, se saisirent d'Étienne à l'improviste et le conduisirent au Sanhédrin. Là, ils produisirent de faux témoins. L'homme que voici, disait-il, tient sans arrêt des propos hostiles au lieu saint et à la loi. De fait, nous lui avons entendu dire que ce Jésus, le Nazoréen, détruirait ce lieu et changerait les règles que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui. Et ils virent son visage comme le visage d'un ange. Le grand prêtre lui demanda, « Cela est-il exact ?» Étienne répondit, « Frères et pères, écoutez. » Et la suite, c'est le discours d'Étienne. Le discours le plus long du livre des Actes. Ce qui est dit d'Étienne par ses accusateurs ne nous rappelle-t-il pas une autre histoire ? L'histoire d'un homme plein de grâce et de puissance qui accomplit des signes, un homme dont la parole fait autorité, un homme qu'on traîne devant le Sanhédrin avec le peuple ameuté, avec de faux témoins, avec le grand prêtre qui instruit un simulacre de procès avec un gouverneur qui lui demande « Que te reproche-t-on ?» Derrière le visage d'Étienne, Vous l'avez reconnu, c'est un autre visage qui se dessine. Est-ce le visage d'un ange, comme l'affirment ces malvoyants du Sanhédrin ? Non. Pour le lecteur de l'évangile de Luc, je vous rappelle que Luc et Actes, c'est une seule œuvre, hein ? Donc on vient quand même, en entrant dans le livre des Actes, de se lire tout l'évangile de Luc. Eh bien, pour le lecteur, on ne peut pas s'y tromper, il n'y a pas l'ombre d'un doute, le visage d'Étienne se confond avec le visage du Christ. La parole qui a saisi de façon inattendue Étienne est une parole qui est en train de l'accorder, en fait, de le synchroniser à la personne même du Christ. C'est très fort ce qui se passe là. Et le déchaînement de violence qui va s'abattre sur Étienne est un copier-coller, on dirait aujourd'hui, de la violence subie par le Christ à la croix. Continuons la lecture. Ces paroles les exaspérèrent, le discours qu'Étienne vient de prononcer. Je vous y renvoie, on n'a pas le temps de le lire maintenant en entier. Ces paroles les exaspérèrent et il grinçait des dents contre Étienne. Mais lui, rempli d'Esprit Saint, fixait le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Puis tous ensemble, ils se jetèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient posé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme, appelé Saul. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne prononça cette invocation. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il fléchit les genoux et lança un grand cri. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et sur ces mots, il s'endormit. Saul, lui, était de ceux qui approuvaient ce meurtre. La ressemblance entre Jésus et Étienne, au fil du récit, devient une évidence, stupéfiante. Le pardon au bourreau, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » La remise de l'esprit entre les mains de son Père. C'est la passion de Jésus qui se rejoue ici. Luc soigne minutieusement le jeu des correspondances en ajoutant même un témoin. À la croix, vous vous souvenez, il y avait ce centurion romain. Ici, c'est un dénommé Saul, ennemi de l'Église, qui garde les vêtements des tortionnaires d'Étienne. Voilà, dans la vie comme dans la mort, les disciples du Christ sont appelés à faire un avec leur Seigneur. Et voilà la fin de notre récit, c'est peut-être le plus extraordinaire. On va lire à partir du verset 8, du verset 1b, du chapitre 8. En ce jour-là, éclata contre l'église de Jérusalem une violente persécution, sauf les apôtres, tous se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de belles funérailles. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Quel est donc l'effet de la persécution qui s'abat sur l'église ? L'effet est fulgurant. La parole se répand partout. Elle se répand par la dispersion de l'église. Elle se répand d'abord en Judée, c'est les contrées autour de Jérusalem, et en Samarie, un peu plus au nord. C'est le programme que Jésus avait annoncé juste avant son ascension, elle se répandra ensuite jusqu'aux extrémités de la terre, ajoute Jésus. Donc la parole du ressuscité, vous l'entendez encore, elle a sa propre dynamique. Elle suit sa propre feuille de route. Et surtout, elle s'adresse à tous comme une bonne nouvelle, comme un évangile. Bonne nouvelle, ça veut dire, le mot grec, c'est évangile. Et avez-vous remarqué qui sont les acteurs de cette annonce en Judée et en Samarie? C'est l'Église dispersée. Oui. Et Luc ajoute une petite précision qui paraît un détail. Les apôtres n'en sont pas. Vous l'avez remarqué à la lecture? Je l'avais mis un peu en jaune, hein, quand même. Ils sont restés à Jérusalem. C'est quand même assez spectaculaire. Pierre, Jacques, Jean et les autres ne font pas partie du premier mouvement d'évangélisation du monde. L'annonce de la parole, c'est l'affaire des anonymes de l'Église. Pas de ceux qui se sont justement réservés, octroyés le service de la parole. Cela reste planté à Jérusalem dans leur stratégie d'entreprise. Mais au fait, c'est quoi cette parole? On parle du service de la parole sur un air entendu. C'est écrit dans le bon règlement intérieur de notre union d'église que le pasteur est chargé du service de la parole. Ben oui, c'est bien. Mais c'est quoi exactement cette parole? Est-ce une prédication? Un témoignage? Est-ce une étude biblique? Est-ce un contenu théologique, un discours? Eh bien, je crois justement que la parole ne doit pas se confondre avec le média qui la porte. Elle est plus que cela. La parole est même autre que cela. Une parole, c'est premièrement quelque chose qui rompt le silence de la solitude. C'est une relation, une connexion. C'est la présence de quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un d'autre, une parole. Avant de dire ceci ou cela, la parole de Dieu est rencontre. Elle dit la présence du Christ ressuscité, « Je suis là, tu n'es pas seul, je m'adresse à toi. » Je te connais et je t'aime. La parole, c'est d'abord Dieu qui prononce ton nom, ma sœur, mon frère. Avant d'être des porteurs de la parole aux autres, ne perdons pas de vue que nous sommes premièrement, fondamentalement portés par cette parole. Cette parole vit sa vie, elle est insoumise, et quand les apôtres, j'allais dire quand les pasteurs, ou qui que ce soit, veut mettre la main dessus, elle s'échappe ailleurs. Elle se disperse au gré du vent de l'esprit. Et vous savez, dans l'époque qui est la nôtre, où on dit que les spécialistes, des sociologues, des philosophes disent que c'est la fin, notre époque sonne la fin de la chrétienté. Ils ont sans doute vraiment raison, mais cela ne sonne pas la fin du christianisme. J'entends par là la feuille de route que la parole s'est donnée elle-même pour entrer en relation avec l'humanité. La parole s'échappe ailleurs, elle se disperse au gré du vent de l'esprit. Alors, frères et sœurs, avant de porter la bonne parole aux autres, il serait peut-être temps de nous laisser accueillir et porter par elle. D'abandonner un moment nos savoir-faire de témoins expérimentés pour nous laisser rencontrer, nous laisser transformer par la parole vivante du Christ ressuscité qui s'adresse à chacun ce matin. Une église porteuse de la parole, c'est une église portée par la parole. Rien n'est possible sans cette prise de conscience qui est un acte de foi. Laissons-nous porter pour devenir porteurs du Christ, Christ vivant à notre monde. Amen.